Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Ariane Demanger et Étienne Noiseau, auteurs et autrices d'un livre sur l'écoute, le livre qui est titré « Tendre l'oreille, manuel d'écoute des médias sonores, audio, radio, podcast ». Ariane et Étienne, avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter pour qu'on vous découvre un petit peu, qu'on sache qui vous êtes, d'où vous venez.
Oui, bonjour Jocelyn, bonjour tout le monde. Moi, en fait, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai travaillé notamment pour ma thèse sur les radios internationales à l'époque et les ondes courtes, etc. Et j'ai publié divers articles universitaires sur la radio, la communication via la radio, notamment la communication politique de l'Union européenne. À partir de 2015, j'ai commencé à collaborer avec l'association Beau Bruit, qui est basée à Prades, dans le Conflans, c'est dans l'arrière-pays de Perpignan, en fait, dans les Pyrénées-Orientales, sur le piémont des Pyrénées. Et donc, dans ce coin plutôt rural, assez peu peuplé, mais néanmoins très intéressant, j'ai créé un média de podcast qui a la particularité d'être participatif, c'est-à-dire qu'il est vraiment réalisé, imaginé, réalisé par les gens du coin ou par les gens qui passent par là, qui sont accompagnés dans leurs réflexions, qui sont accompagnés dans évidemment les aspects techniques, notamment la prise de son, avec du matériel assez simple d'utilisation, mais qu'on pour lequel on montre comment l'utiliser pour apporter du son de la meilleure qualité possible, pour pas être déçu, tout simplement. Et ensuite, il y a accompagnement possible pour les plus motivés au montage, au mixage. Ce qui est important, c'est un petit peu comme ce que... Enfin, je ne sais pas ce que tu fais, Jocelyn, mais ça m'y a fait penser tout à l'heure en pensant à comment ton émission... organise, c'est que il y a deux temps de diffusion en fait. Il y a un premier temps de diffusion qui est en public, ce qui est très important, ça fait vraiment partie de l'existence de ce média sur le territoire, et un deuxième temps qui est la diffusion sur Internet via le site du média ou la plateforme SoundCloud par exemple. Je me suis un peu étendue, mais c'est ce média Résonance, le conflant à nos oreilles que j'ai créé en 2015. Et j'ai en parallèle fait diverses activités, créations, ateliers et autres avec l'association Beau Bruit. Je m'arrêterai là juste en disant, mais peut-être ce sera un petit truc ouvert pour la suite, vu que je sais qu'on est écouté sur plein de super radios associatives. Je suis très intéressée par la création d'une radio associative dans le Conflans, voilà, et je cherche volontiers des aides, des conseils. Voilà, c'est fini pour moi, c'était un petit peu long, mais je passe la parole à Étienne.
Merci, bonjour tout le monde, moi c'est Étienne Noiseau et je suis réalisateur sonore pour l'association Beau Bruit, donc qui est l'association qui édite le livre « Tendre l'oreille ». Et mon travail, en fait, consiste à me mettre au service de projets, de projets sonores, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Donc, je fais beaucoup d'accompagnement à la réalisation de contenus audio par des amateurs, petits et grands. Pour faire un lien avec le sujet du livre, j'ai été aussi... le créateur et le rédacteur en chef avec une équipe de rédacteurs et de rédactrices assez variées d'un média qui s'appelait Synthone et qui était une revue en ligne et papier consacrée à la création radiophonique et de façon plus générale à la radio et notamment la radio associative, la radio libre. Ce média, il existe toujours en ligne mais il n'est plus actif. C'était une façon à l'époque de créer quelque chose qui n'existait pas, qui était un lieu, un support pour interroger c'est ce domaine d'expression et de création autour du son qui a connu un essor assez fort depuis le début des années 2000, mais qui a aussi toute une histoire. Une histoire portée par des radios libres, une histoire portée par le service public de la radio. Et ce média, Synthone, avait l'objectif d'être une revue critique et en même temps un support aussi de réflexion, de recension de l'histoire, du patrimoine et du matrimoine radiophonique. C'est une revue qui a existé jusqu'en 2019.
Je conseille d'ailleurs aux auditeurs et auditrices d'aller sur le site. Si jamais vous tombez sur des exemplaires de Synthone, n'hésitez pas à les prendre, ça devient une chose rare. Mais j'ai eu quelques exemplaires en main et c'était vraiment très très intéressant, de très bonne qualité. Merci Étienne pour ce travail avec Synthone, surtout la version papier. Nous, au Dos de la Presse, on est assez fan du papier.
Merci, c'est gentil. Effectivement, tout est encore en ligne. En tout cas, tous les articles sont encore en ligne et constituent une archive dont on nous parle encore de temps en temps.
Du coup, Étienne, Ariane, donc c'est avec l'association Beau Bruit que vous avez justement édité Tendre l'oreille. Tendre l'oreille, donc, comme vous le dites vous-même, c'est un manuel d'écoute des médias sonores, audio, radio et podcast. Vous avez donc travaillé ça, découpé ça en trois grandes parties. La première partie, c'est j'entends. La deuxième partie, c'est j'écoute. La troisième partie, c'est j'approfondis. Qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger, à écrire, parce que ce manuel qui est un guide entre guillemets de l'écoute, l'approche sensorielle, auditive, il y a un gros travail parce que vous partez autant sur tout ce qui peut être l'approche, on va dire la définition technique, scientifique du son, que et on finit en gros avec le travail de la réalisation d'émissions de podcasts. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ce livre ?
La motivation, c'est de créer un outil qui n'existait pas. Des fois, voilà, on anime des ateliers, on rencontre des gens passionnés par le son et qui débutent et qui cherchent des ressources. Et nous-mêmes, voilà, quand on est un peu dans la pédagogie, on cherche des outils. Et puis, quand ces outils n'existent pas, on se dit, on va essayer de les créer. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est après s'être rendu compte qu'il existe bien sûr tout plein de ressources sur l'éducation à l'image, que ce soit l'image fixe ou l'image animée. C'est dans les programmes scolaires. Ça va de soi pour tout le monde que n'importe quelle communication visuelle est une construction qui a pour but de transmettre un message, comporte une idéologie, des partis pris. Une mise en scène, tout ça c'est connu, c'est reconnu, il existe plein de ressources, y compris pédagogiques, pour dans les domaines de l'éducation à l'image, mais étrangement rien dans le domaine du son et de l'écoute et tout ce qui concerne les médias sonores. C'est ça la motivation, c'est d'apporter une modeste pierre à un vaste édifice qui reste à construire. Et qu'on invite nos lecteurs et nos lectrices à continuer, en fait, à utiliser ce support qu'on propose pour continuer à bâtir ce qui serait une éducation de l'écoute ou une éducation à l'écoute. Je ne sais pas vraiment comment on l'appelait, mais ça reste à inventer.
C'était pour la motivation, mais je trouvais que ça allait peut-être un petit peu plus loin déjà. Et peut-être, si ça te semble pertinent, on pourrait revenir sur comment on a construit le livre.
Oui, tout à fait. Parce que juste pour rebondir sur ce que disait Étienne, je trouve qu'en effet, il a une approche tout à fait éducative. Je pense que c'est un livre qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, à tout type d'auditeurs, pour comprendre ce qu'est le son et en même temps comprendre tout ce qui est l'audition. Mais oui, je veux bien qu'on revienne sur la question de la motivation.
Ouais. Alors, dans ce que tu dis, moi, j'entends que voilà, cet aspect un peu tout public et un autre aspect, mais qui vient de m'échapper. Je vais parler de ça. Et l'aspect pédagogique aussi. En fait, donc, on savait que ce serait intéressant de faire quelque chose sur ce sujet, mais restait à savoir comment. Comment le faire. On savait qu'on voulait que ça touche au moins à partir des ados motivés, on va dire, et que ça puisse intéresser, enfin, ne pas être complètement inutile à lire pour des gens qui pratiquent déjà, si possible, et être aussi accessible à des gens qui démarrent. Donc voilà, on avait ces problématiques-là. Et puis, on avait envie que ce soit joli, agréable, éventuellement drôle, si possible, même si c'est pas un truc très évident, l'humour. Et en fait, on a pas mal... Bon, bien sûr, quand on a voulu écrire ce bouquin, ben, on a fait comme tout le monde, quand on a un projet, on a regardé si ça existait déjà. Et on a pas mal fouillé, on n'a pas trouvé. On a trouvé des choses qui ressemblent un petit peu. Enfin, moi, j'avais participé en tant qu'universitaire à un document, enfin vraiment un bouquin universitaire, donc pour faire de la recherche sur la radio, qui était dirigé, ouvrage dirigé par Frédéric Antoine, analyser la radio. Voilà, c'est le titre de cet ouvrage, mais qui est vraiment à destination des universitaires avec une façon de présenter les choses très particulière. Et voilà, pour adultes, on n'a pas trouvé grand-chose. Par contre, du côté de l'édition jeunesse, on a trouvé pas mal de choses. Alors, évidemment, pas strictement sur les médias et la radio, mais sur le son et l'écoute en général. Et en fait, on a trouvé très intéressante l'idée d'essayer de produire un document qui soit non seulement accessible dans les termes, dans les mots, dans la façon dont on le rédige, mais aussi qui donne envie visuellement, graphiquement. Et pourquoi pas illustré, pourquoi pas très illustré. Et c'est comme ça qu'on a... Alors, c'était pas... Bon, là, j'entre un peu dans la cuisine interne du bouquin, mais en fait, on a pensé à faire appel à quelqu'un qui puisse justement donner cette couleur un peu ludique et très visuelle à cet ouvrage. Et on a pensé pour ce travail à Catherine Stebler, avec qui Étienne avait déjà travaillé pour la revue Écoute, et Catherine qui a à la fois imaginé les illustrations une fois la rédaction faite, donc qui a un peu découvert les textes et s'est laissée inspirer par les textes, et qui a fait tout ce qui est mise en page, graphisme, jusqu'à la conception du bouquin, la couverture. Donc pour cet aspect effectivement tout public, c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait très envie. Peut-être je passe la parole à Étienne sur le côté peut-être progressif du choix des différentes parties, etc.
Alors, je fais juste une petite aparté, puisque tu as cité Catherine Stebler. Elle a fait partie du journal aussi Biscotto. Biscotto, c'est un journal aussi que je conseille à nos auditeurs et auditrices. Hein, il existe en version papier. C'est un très bon journal d'information pour la jeunesse. Donc, Biscotto à vous procurer. Vas-y, je te le retends la perche, Étienne.
Oui, donc le livre, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu le présentais brièvement, il se décline en trois parties. Enfin, il se déroule en trois parties et on a vraiment souhaité qu'il y ait une progression dans la lecture, même si, et là j'ouvre déjà une parenthèse, même si on souhaitait que le livre puisse avoir plusieurs modes de lecture et donc on puisse aussi, en l'ouvrant au hasard, y piocher suffisamment d'informations pour être satisfait de ce type de lecture. Et il y a aussi également à la fin un cahier pratique qui est une sorte de... C'est une autre façon de lire le livre. Ça nous amène à, quand on est face à un contenu audio quel qu'il soit, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour essayer de mieux le comprendre. Et ce cahier pratique peut même être complété à la main si on le souhaite pour analyser un contenu audio. Et dans chaque question qu'il pose, nous renvoie à une page du livre où là, c'est plus explicite ce qu'on veut dire par là. Donc, il y a plusieurs modes de lecture de ce livre, mais évidemment, le mode principal, c'est du début jusqu'à la fin, de la gauche vers la droite, comme n'importe quel ouvrage. Et on le déroule progressivement par une entrée en matière qui est sur le son. Qu'est-ce que le son? Qu'est-ce qui se passe dans notre oreille? Comment est-ce qu'on ressent le son, les sons autour de soi et les sons de notre environnement. Et puis, on va s'intéresser à ce son plus particulier qui est la voix humaine et qui est un élément clé de n'importe quel contenu radiophonique. Et puis, petit à petit, on va aller vraiment vers la complexité des médias, que ce soit dans leur forme, avec tous les ingrédients que peut comporter un contenu sonore, c'est-à-dire la voix, bien sûr, mais aussi les autres sons, les ambiances sonores, la musique, les silences. Et puis, on va aussi s'intéresser à comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière les médias, qui sont les éditeurs, qu'est-ce que ça nous apprend sur les contenus, de savoir par qui ils sont faits. Et puis, on va aller dans une analyse plus pointue, voilà, mais très progressive, à chaque fois avec des notions, on les appelle comme ça en coulisses, c'est pas écrit vraiment comme ça, mais en tout cas des éléments un peu plus informatifs et des éléments pratiques, c'est-à-dire à chaque fois, dans chaque chapitre, il y a au moins une expérience à pratiquer.
Il y a énormément d'expériences justement que je trouve très très ludiques, hein. J'en ai fait certaines. Quand vous avez découpé justement donc la première partie, j'entends cette définition de la voix, c'est également la définition des vibrations du son, les fréquences, les hauteurs, le timbre, ça c'est l'univers sonore du quotidien entre guillemets que vous abordez.
Oui, l'idée c'était vraiment de partir de la sensibilité. Je pense qu'on fait avec ce livre un travail pour aiguiser sa sensibilité du début jusqu'à la fin et de pouvoir cultiver ça. C'est un peu comme par exemple avoir la curiosité de découvrir des nouvelles saveurs ou de goûter un plat qu'on connaît déjà mais avec une recette différente. En fait, nous on veut vraiment comme ça développer le goût de l'écoute. Et ça passe par affiner sa sensibilité. Donc bien sûr, on va partir de ce que c'est que le son quand il parvient à nos oreilles. Comment est-ce qu'on peut mettre des mots pour qualifier ça ? Donc tu as parlé de hauteur, de fréquence, de timbre. Donc on essaye d'expliquer ça sans rentrer vraiment très précisément dans ce que c'est techniquement, acoustiquement. Enfin, on a essayé d'être précis, mais tout en restant accessible. C'était d'ailleurs un travail pas évident de pouvoir passer un peu de temps là-dessus sans non plus aller sur le côté technique. Car ça, pour le coup, des livres qui parlent de son et simplement d'audition, ça, il y en a plein, ça existe. Mais notre objectif, c'était juste une étape pour ensuite aller vers l'écoute des médias.
Ouais, pour revenir sur cet aspect, c'est vrai qu'on a tout le temps un peu marché sur des œufs. En tout cas, on s'est énormément questionné pour à la fois apporter assez de ce qu'on a appelé des notions. C'est la partie, on va dire, texte du bouquin. Et en même temps, pas aller trop loin. Et c'est pour ça qu'on a proposé, en plus de très régulièrement des expériences à pratiquer, on a proposé très régulièrement des « pour aller plus loin » parce que on voulait pas non plus que les gens restent sur leur faim. Si sur un sujet en particulier, il y a une envie d'en savoir plus, de s'inspirer un peu plus, de creuser, eh ben on a aussi donné les moyens avec quelques conseils succincts mais réguliers tout au long du livre pour développer en fait.
Une soif irrémédiable diffuse mes textes en sous-marin. Peste et reste introuvable, retranscrit tout ce que je vis, ce que j'entends et ce que je vois. Je suis partout et nulle part, toujours un œil qui traîne, puis monte sur scène comme un boxeur sur un ring. La tête froide et poings serrés jusqu'au dernier round. À scène, mes rimes frappent droite, gauche, crochet, esquive et hypercute. Libère la bête et oppose arabe de lutte.
Moi, J'écoute les autres voix de la presse.
Moi, j'ai bien aimé une de vos phrases. Hein, c'est quand vous expliquez que qu'on lise ou qu'on écoute, ce sont les mêmes processus de compréhension qui sont convoqués. Donc, aux autres voix de la presse, vu qu'on est fan de l'écoute, de l'audio avec les radios et de la presse papier, on a trouvé un lien qui nous convient tout à fait. Dans cette partie, donc la deuxième partie, j'écoute également, vous décortiquez un petit peu justement le son, ce qu'on entend. Donc, avec entre autres, il y a une petite chose là qui est expliquée, c'est que la radio, au final, beaucoup d'émissions, c'est de la parole écrite qui a des codes déontologiques et qui a une sorte de un savoir-dire et qui est attendu un petit peu autant par les auditeurs que par les réalisateurs. Donc tout ça, c'est ce que justement vous décortiquez. Vous citez par exemple la BBC hein, qui elle a un document qui fait plus de 220 pages et ça explique également ce savoir-dire dont il est question, c'est-à-dire également le vocabulaire, la manière de s'exprimer, les personnes qui sont bon public. C'est un peu tout ce décortiquage également que vous exprimez.
Oui, alors c'est vrai que il y a un petit passage là qui est plus sur le journalisme et le fait qu'en journalisme il y a une déontologie particulière, hein, bien sûr. Donc je trouvais que c'était intéressant de s'apesantir un peu sur cet aspect-là. Et c'est vrai que on a cité la BBC parce que c'est quand même là qu'il y a des sources les plus impressionnantes, notamment en termes de références que doivent compulser et respecter les journalistes qui y travaillent, où on indique quel terme, dans quel cas l'utiliser, dans quel cas ne pas l'utiliser. Et c'est vraiment très poussé. Et pour des Français d'ailleurs, françaises, c'est parfois un peu surprenant. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent, que la BBC met très en avant dans sa façon de travailler. Donc je trouvais ça intéressant de le savoir aussi. Et tu parlais d'autre chose, Jocelyn, j'ai oublié.
Justement sur le vocabulaire, le savoir-dire, l'interviewé, qui est bon public, il y a aussi pareil toute une attente autant de la part du réalisateur que de l'auditeur.
Oui, c'est ça, et c'est là qu'on glisse un peu vers les questions d'une espèce de contrat en fait, un contrat médiatique qui est non dit mais qui existe du fait que on attend quelque chose de particulier d'une certaine antenne. On sait qu'il y a une certaine ligne éditoriale, qu'elle soit définie ou pas. Des fois, elle est plus ou moins définie dans les jingles. Et donc, en tant qu'auditeur, auditrice, on sait ce qu'on va chercher. On sait ce qu'on va chercher aussi auprès dans une certaine émission ou lorsqu'on sait que l'émission est faite par tel producteur, productrice, comme on dit sur France Culture ou en tout cas voilà, on va chercher une voix, on va chercher une personnalité, on va chercher une tonalité et c'est vrai que là il y a une espèce de contrat qui se met en place où de l'autre côté de des ondes, la personne qui fait l'émission sait aussi très bien ce qu'on attend, ce que son public attend d'elle en fait.
Vous précisez également qu'il est intéressant et utile de savoir d'où on nous parle pour comprendre ce qui est dit et comment cela est dit. Donc là, on est aussi justement dans l'éducation aux médias, savoir écouter, savoir traduire. Ce qui est intéressant aussi, c'est les modes de diffusion et les situations d'écoute. Donc là-dedans, moi, ce qui m'a interpellé justement, c'est qu'on peut autant écouter une émission en solitaire que de manière collective. Il y a même justement des événements d'écoute collective qui s'organisent.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici parce qu'on le pratique beaucoup, les séances d'écoute collective. Il en existe d'autres en France sous forme parfois de festivals d'ailleurs ou de façon plus régulière au cours de l'année. Et c'est vrai que pour qui l'a expérimenté, écouter en séance d'écoute collective, enfin on peut l'appeler autrement, parfois ça s'appelle sieste sonore ou autre, selon un petit peu l'ambiance, la coloration qu'on veut y mettre. Mais le fait d'écouter en tout cas quelque chose en même temps que d'autres qui sont à côté de nous va changer assez fort la qualité d'écoute, d'une part parce que on respecte l'écoute de l'autre, donc on va pas faire de bruit, on va pas trop bouger, etc. Et déjà, donc ça nous met nous-mêmes dans une condition d'écoute particulièrement intense. Et après, le fait de recevoir ce son dont on sait déjà qu'avec la voix et même la musique, puisque la musique fait un peu partie toujours de la radio finalement, quelle qu'elle soit, en tout cas, tous ces sons qui nous parviennent et qui nous touchent fort, le fait d'être ensemble, un peu peut-être comme dans une manif ou peu importe, tous les événements qu'on vit en groupe, ce sont pas des événements qui vont laisser la même trace que ceux que l'on vit seul, ça va être un peu décuplé. Et c'est vraiment des moments très intéressants d'ailleurs aussi pour ce qui se passe éventuellement ensuite lorsqu'il y a la possibilité pour les auditeurs, auditrices de s'exprimer sur l'expérience vécue. C'est des choses qui sont très intéressantes à capter. C'est des moments vraiment riches où des rencontres importantes se produisent aussi souvent.
Et toujours un peu justement dans ce décortiquage au niveau du montage ou de ce qu'on peut entendre, vous mettez également en garde face au vrai et au faux de l'audio, entre autres en parlant de l'expérience de la fiction d'Orson Welles en 1938, mais également justement des informations commerciales et des détournements de pubs, voire de discours. Vous citez d'ailleurs le camarade de Polémix, que je salue au passage, et vous abordez également la question de l'IA. Est-ce que l'IA, c'est quelque chose qui va révolutionner autant la réalisation que l'écoute, donc il va falloir être encore plus attentif à ce qu'on écoute pour encore plus comprendre qui parle, d'où ça vient.
Bien sûr, on pouvait pas faire un livre aujourd'hui ou une émission ou quoi que ce soit sans parler de l'IA, donc il fallait évidemment qu'on en parle, mais c'est une réalité qu'on a peine à analyser et à voir quelle va être la portée réelle sur nos vies. Donc on l'aborde parce que c'est indispensable d'être très vigilant et vigilante à ces nouveaux modes d'écriture et de communication qui sont très différents de ce qui pouvait être fait manuellement à échelle humaine. Et c'est pour ça que ça termine ce livre et ça termine ce chapitre sur le vrai et le faux de l'audio, dans lequel on recense différentes façons de jouer avec cette frontière poreuse qu'il y a entre le vrai et le faux, entre les faits et la fiction, entre le reportage et la mise en scène, qu'on peut déceler potentiellement dans toute émission de radio, dans tout contenu sonore, plus ou moins, parce qu'il y a une spécificité du son qui est vraiment particulière et qui le distingue d'autres moyens de communication que peut être l'audiovisuel. Par exemple, l'image animée, c'est que lorsqu'on fait du montage sonore, la plupart du temps, on n'entend pas les coupes, on n'entend pas les raccords. Donc on peut faire croire à une fausse continuité. C'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que font les gens quand ils font du montage sonore, c'est de réordonner un message, d'en changer la temporalité, l'impression qu'on a à l'écouter. Ça fait partie de cette souplesse et de cette créativité qui est propre au domaine sonore. Mais c'est aussi quelque chose avec lequel on peut jouer, qu'on peut utiliser pour transformer un discours. Donc dans ce chapitre, on a recensé quelques expériences créatives qui ont pour intention de nous faire entendre les choses différemment. Donc on cite par exemple les montages, les collages sonores de Polémix et la voix off qui s'amusent à détourner des discours de personnalités politiques pour leur faire dire des choses totalement absurdes ou au contraire qui révèlent peut-être un sous-texte. Et on prend l'exemple d'un montage relativement récent d'un discours d'Emmanuel Macron dans lequel on ne décèle pas du tout les coupes et on pourrait vraiment penser que c'est un vrai discours, sauf que évidemment le compte est vraiment détonnant. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle pourrait faire la même chose sans qu'il y ait d'intention artistique ou d'intention, en tout cas, qu'il y ait une complète invisibilité de l'origine du son. Et donc là, c'est important d'être vigilant par rapport à ces contenus qui nous interrogent vraiment sur les intentions des personnes qui vont créer ces contenus.
On arrive au terme de l'émission. Donc, je rappelle, votre ouvrage s'intitule « Tendre l'oreille, manuel d'écoute des médias sonores ». Donc, c'est paru aux éditions Bowie, donc le nom de votre association. Ariane et Étienne, merci beaucoup pour cet ouvrage, vraiment très, très pratique, que je conseille autant à tout âge. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses, autant sur l'origine du son que sur les émissions. À bientôt, bonne continuation à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette opportunité. À très bientôt, j'espère.
Bonne journée à tout le monde.
C'était Les Autres Voix de la Presse avec Ariane Demonger et Étienne Noiseau pour leur livre « Tendre l'oreille, manuel d'écoute des médias sonores » paru aux éditions Beau Bruit. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?